Le livre du Lévitique a donc été écrit par Moïse un an après la sortie de l'Égypte, alors que le peuple est en train de camper autour du mont Sinaï. Et Dieu donne ses instructions à Moïse. Et cette expression couvre le livre là, l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. On trouve cette expression 56 fois dans tout le livre, et le livre termine avec cette parole, au chapitre 27, le verset 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. C'est la parole de Dieu, c'est vraiment l'expression de ce qu'il veut transmettre à son peuple à la sortie de l'Égypte. Et donc c'est un livre qui est certainement très important. Le livre fait référence, le nom du livre Lévitique fait référence aux Lévites, c'est l'une des 12 tribus d'Israël dont fait partie Moïse et qui est chargé de conduire le peuple dans l'adoration de l'Éternel. Le livre c'est la continuation du livre de l'Exode. La première partie du livre de l'Exode parlait du rachat, hein, de comment est-ce que Dieu a racheté les descendants d'Abraham de l'esclavage afin de les mener dans la terre promise. Donc ça nous parle vraiment du rachat du peuple de l'esclavage. Il fallait qu'ils sacrifient un agneau le jour de Pâques et puis qu'ils appliquent le sang sur les montants de la porte de leur maison. Et ils ont été délivrés de la sorte. La deuxième partie du livre de l'Exode est consacrée à la construction du tabernacle. Le tabernacle que vous voyez ici, c'était cette tente où Dieu allait rencontrer son peuple. Pourquoi Dieu a pris tellement de temps ensuite dans ce livre de l'Exode pour parler du tabernacle? C'est parce qu'il a choisi d'habiter au milieu de son peuple. Il désire vivre au milieu. Le tabernacle était au milieu de tout le campement d'Israël. Et puis, il veut le rencontrer dans le Lévitique, en Exode, pardon, au chapitre 29, il est dit au verset 43 à 46, je vous lis cela. « Je me rencontrerai là », il parle du tabernacle, avec, on appelle aussi le tabernacle la tente de la rencontre, hein, ou la tente d'assignation, selon vos traductions. Et donc c'est là le moment où il veut le lieu où il veut les rencontrer. « Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron, ça c'est le souverain sacrificateur et ses fils, tous les prêtres de la tribu donc de Lévi, les Lévites, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. » Le livre de l'Exode se termine avec la gloire qui remplit le tabernacle. Ça, on voit ça au chapitre 40 et au verset 34. « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, le tabernacle, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Le livre de l'Exode avait commencé, le peuple était esclave, maltraité, ignorant de Dieu, tout de Dieu, du Dieu d'Abraham. Et quand il se termine, le peuple est racheté, il est affranchi, il a eu connaissance, il a découvert son Dieu dans la délivrance et dans les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte. Les 10 plaies, chaque plaie de l'Égypte frappait un des dieux égyptiens. Une des choses qui symbolisait les dieux des Égyptiens. Et puis, il a montré aussi son caractère au travers des 10 commandements. Dieu, maintenant, habite au milieu de son peuple et sa gloire a rempli le tabernacle de sorte que même Moïse, son serviteur, ne peut pas rester là dans la présence de Dieu. Et c'est là l'objet du livre maintenant du Lévitique. Comment faire pour que le peuple puisse avoir communion avec son Dieu? Comment est-ce que ce peuple racheté, mais toujours finalement pécheur, peut-il avoir communion avec son Dieu, le rencontrer, vivre dans sa présence? Comment puis-je entrer, moi, dans la présence de Dieu? Comment puis-je avoir communion avec lui? Alors que Moïse ne peut pas entrer dans le tabernacle pour rencontrer Dieu, Dieu l'appelle depuis la tente d'assignation. C'est ce qu'on voit au premier verset, je vous commence la lecture du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse, appela Moïse de la tente d'assignation. Et lui parla, il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront des morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Je m'arrête ici pour la lecture. Mais ce qu'on lit dans le livre du Lévitique nous semble tellement loin de ce que nous vivons. Nous, on n'a même plus le droit de jeter du riz à la sortie sur les mariés à la sortie de l'église ou de la mairie. Mais eux, ils sacrifient des bœufs, des agneaux, des oiseaux, ils les découpent, ils enlèvent la peau, là, ils aspergent le sang. Tout cela en plein air, ils sont habillés d'une manière particulière, ils font ça tous les jours, et puis certains jours de l'année, c'est encore plus. Et donc, c'est tellement loin de ce que nous vivons. Les chapitres 1 à 7 du livre donnent toutes ces prescriptions concernant les sacrifices d'animaux pour, au fond, que les Juifs même d'aujourd'hui ne pratiquent plus. Ils ne les pratiquent plus depuis 2000 ans. Et pour cause, il n'y a plus de tabernacle, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrificateur depuis que Jésus-Christ est venu. Et la vidéo nous montrait ça parfaitement. Tous ces sacrifices n'ont pas réussi à changer le cœur du peuple. Ils se sont habitués à cela, au sang versé, et puis ils ont fini par retourner à leur faute. Et puis Jésus est venu. Alors à quoi bon lire et étudier ces vieilles recettes? Quelle est l'utilité d'un tel livre pour nous aujourd'hui? Eh bien, la loi de l'Éternel, c'est un pédagogue. Elle nous guide pour que nos vies répondent avec amour et obéissance à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Elle nous invite à refléter le caractère de Dieu et à répandre sa bénédiction sur le monde. Et je vous propose de voir ce matin-là les sacrifices. On verra que les sacrifices du Lévitique rappellent le coût du péché. On verra encore que les sacrifices du Lévitique rappellent le caractère de Dieu. Et puis enfin, on verra que les sacrifices du Lévitique rappellent le grand projet de Dieu pour nous. Plus rien qui fonctionne là. Regardons, les sacrifices du Lévitique nous rappellent d'abord le coût du péché. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a payé parfaitement et pour toujours la pénalité du péché. Nous n'avons plus besoin d'égorger un agneau pour retrouver de la communion avec Dieu, mais nous pouvons finir par aussi minimiser notre péché. On peut minimiser toute l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Et donc les sacrifices nous rappellent que le péché est coûteux. Notre marche en Christ et notre attitude envers le péché est liée au coût que nous lui reconnaissons. Vous avez déjà vu les campagnes de la sécurité routière. Elles sont souvent très pertinentes. Elles sont souvent très bien faites. Elles rappellent les vérités qui peuvent influencer notre comportement sur la route. En ce moment, il y en a une qui montre des amoureux dans un lit, un père et sa fille qui jouent, des amis qui rigolent, et puis cette phrase, sur la route, n'oublions jamais ce qui compte vraiment. Une campagne qui est un peu plus ancienne et qui luttait contre le téléphone au volant, montrait des images assez violentes d'accidents de la circulation, et puis finissait sur des corps inanimés qui jonchaient par terre, suivi d'une formule encore plus fracassante. Vous direz à ces enfants que vous deviez répondre vraiment à ce SMS. Vous direz à sa femme que vous deviez absolument prendre cet appel. Sur la route, le téléphone peut tuer, c'était le slogan. Eh bien, les sacrifices rappellent un peu ces deux mêmes vérités qui peuvent influencer nos comportements vis-à-vis du péché. Les trois premiers sacrifices, l'holocauste qu'on vient de voir ici, l'offrande de farine et le sacrifice d'action de grâce, sont des sacrifices dont il est dit qu'ils sont une agréable odeur à l'Éternel. Vous avez vu ça au verset 9 dans notre passage. Et cette vérité revient dans ces trois premiers sacrifices. D'une agréable odeur à l'Éternel. Et au fond, ces sacrifices, ils évoquent la joie de la communion avec Dieu, le bonheur de celui qui se tient dans sa présence. Le psalmiste a écrit cela dans le psaume 84, il dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ». Et que, c'est-à-dire la présence de Dieu, la communion avec Dieu, le fait d'être en bon terme avec Dieu, c'est tellement, tellement précieux que rien ne devrait nous en détourner, que le péché ne devrait pas nous en détourner. C'est pour que nous nous souvenions de ce qui compte vraiment. Les deux autres sacrifices, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité, évoquent eux la douleur de la séparation, de la mort provoquée par le péché, pour que nous nous rappelions que péché tue. C'est ce que Dieu avait dit, hein, dès le commencement, en Genèse chapitre 2, verset 17, il avait dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Que ce soit donc pour jouir de la présence de Dieu, de sa communion, que ce soit pour connaître son pardon, il faut une victime. Et la victime, elle doit être sans défaut. Vous avez remarqué cela au verset 3, une victime sans défaut pour établir le contact entre lui et les pécheurs. Il fallait un sacrifice qui remplace une vie de péché par une vie pure. Dans tout l'Ancien Testament, on utilisait des animaux. Et je me mets à la place des enfants aujourd'hui et je me dis, mais voilà, ce petit agneau tout blanc, tout mignon, à un an à peine, on va le sacrifier. Il a passé son temps à lécher les enfants de la famille, à jouer avec eux, et puis maintenant il est sacrifié. Les animaux, pourquoi cela? Mais parce que les animaux sont dépourvus de discernement moral. Ils sont exempts de toute responsabilité, de toute culpabilité. Et du coup, il pouvait servir de sacrifice de substitution afin d'expier le péché. L'offrant, il devait poser sa main sur la tête de l'animal. Vous avez remarqué cela au verset 4. Montrant ainsi qu'il s'identifiait à la victime. Pour certains sacrifices, notamment le sacrifice de culpabilité, il fallait faire l'aveu, il fallait confesser son péché. Vous imaginez la main sur la tête de l'animal en train de demander pardon pour votre offense, pour votre péché. Et puis ensuite, il est dit que l'offrant devait lui-même égorger la victime. Ça, c'est au verset 5. Lui-même. Et puis le sang récolté par les sacrificateurs était ensuite aspergé par eux en signe qu'une vie a été prise. Le livre aux Hébreux commente « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans effusion de sang, ce n'est pas possible qu'il y ait du pardon. Et donc, c'était vraiment très pédagogique. Imaginez-vous à cette époque, si je me rappelle que mon péché va entraîner la mort d'un animal innocent, je vais peut-être réfléchir un instant. Et le sacrifice n'est pas fait sans moi, dans un abattoir au loin, d'un animal dont je n'ai que faire. Mais l'animal, c'est le mien. C'est celui que j'ai élevé. Il va mourir pour ma faute. C'est ma main qui est sur sa tête. Et le couteau, il est dans mes mains. Et la vie, c'est moi qui la prends. Oh, oui, le péché est coûteux. L'animal sacrifié, n'ôtait pas à proprement parler le péché. Il ne faisait que symboliser celui qui atteindra parfaitement cet objectif, et c'est aussi le commentaire que fait Hébreux chapitre 10, je vous invite à le prendre si vous trouvez ça, Hébreux chapitre 10. Il fallait sans cesse reproduire des sacrifices parce que voilà, ça ne changeait jamais, le cœur n'était pas changé. Alors voilà ce qu'il dit, Hébreux 10, verset 4, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit à son Père, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Je pêche parce que j'oublie ce que mon péché a coûté. Mais nous nous habituons à cette vérité et elle finit par ne plus nous atteindre. C'est triste. Et c'est pourquoi je pense que ce livre du Lévitique peut vraiment nous aider à nous alerter tout à nouveau sur le coût du péché afin de nous émerveiller à nouveau de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix. Tous les sacrifices sont évoqués dans les 7 premiers chapitres, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, il est question des sacrificateurs dans les versets, dans les chapitres 8 et 9. Et à la fin du chapitre 9, il est dit, Moïse et Aaron, vous souvenez que Moïse ne pouvait même pas entrer dans la tente, hein, mais Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et il consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie. et se jetèrent sur leur face. J'aime ce beau passage. Ça nous montre que, effectivement, maintenant, Moïse, au travers de tous ces sacrifices, Moïse et Aaron ont pu entrer. Et le peuple a pu voir la gloire et demeurer dans la gloire. Et ça, ça a produit énormément de joie dans leur cœur. Et aussi, une terrible crainte. Ils se sont jetés sur leur face. Et je pense que les sacrifices nous rappellent ces deux vérités. Le fait d'être dans la joie de la communion avec Dieu. N'oubliez pas ce qui compte vraiment. Et puis, la crainte, le respect, le rappel du coût du péché. Deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, ce sont que les sacrifices du Lévitique rappellent le caractère de Dieu. Les lois reflètent les valeurs du législateur. On voit que avec nos propres lois reflètent les valeurs de ceux qui font ces lois. On voit la valeur que le législateur porte à la vie intra-utérine ou la valeur que le législateur porte à la famille dans les lois qu'il promulgue. Dans le livre du Lévitique, on voit la même chose. On voit le cœur du législateur, on voit le cœur de Dieu. Par exemple, le Lévitique commande aux Israélites de laisser une partie de la moisson aux nécessiteux et aux étrangers. Ça, c'est le Lévitique 19, verset 10. Et on connaît bien cet aspect-là avec le livre de Ruth. On se souvient qu'elle a pu glaner Ruth a pu glaner dans le champ de Boaz parce que Boaz respectait ce commandement. Et pourquoi est-ce que on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Mais c'est que Dieu valorise la compassion pour les malheureux bien plus que le profit maximum. Et il valorise le travail plus que la cistana. Et cela, ça nous aide à comprendre le caractère de Dieu. Est-ce que ça signifie aussi de vivre en tant que peuple de Dieu? Même si cette loi particulière, nous ne la pratiquons plus, nous nous souvenons que notre Dieu, il est compatissant et qu'il veut que nous soyons, nous aussi, compatissants. Il veut pourvoir aux besoins des plus nécessiteux et il veut que nous entrions dans son œuvre en participant à son œuvre de la sorte. Avec les lois sur les sacrifices, nous apprenons que Dieu est saint. Il est à part. On n'entre pas dans sa présence comme on veut. C'est lui qui fixe les règles. Quand certaines personnes me disent qu'elles ne craignent pas Dieu, qu'elles s'arrangeront avec lui le jour où elles le verront, ah mais je suis effrayé. Je suis effrayé pour elles. Elles ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Le peuple d'Israël avait chanté cet aspect du caractère de Dieu au moment de la sortie de l'Égypte, après avoir vu tous les dieux de l'Égypte frappés par l'Éternel, après avoir vu la mer s'ouvrir devant eux, et quand ils ont traversé à pied sec au milieu de ces murailles d'eau, et puis ensuite ils ont vu ces murailles d'eau s'écraser et engloutir l'armée de Pharaon, et à la sortie de cela, ils ont chanté « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ?» Ça, c'est Exode 15. « Qui est comme toi, magnifique en sainteté ?» Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris Dieu. Et à part, il est saint. « Digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Exode chapitre 15, versets 11 à 17. C'est un extrait du cantique de Moïse que le peuple a chanté. Dieu est à part. Dieu, il est saint. Il est redoutable. Les nations tremblent. Tout dans les sacrifices nous rappelle que Dieu est saint. Le tabernacle lui-même est un lieu saint. C'est un lieu séparé, fermé, avec un lin blanc tout autour. Dès que l'on s'approche, on tombe sur l'autel, l'autel des sacrifices sur lequel le feu brûle continuellement. Des sacrifices sont offerts en permanence pour faire l'expiation. Les sacrifices, il nous est dit que ce sont des choses très saintes. Chapitre 2, verset 3, il dit « C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. » Au chapitre 6, verset 10, 18, 22, au chapitre 7, verset 1, verset 6, il est dit que tous les sacrifices sont des choses très saintes. Avoir part au sacrifice, ça sanctifie. C'est ce qui nous est dit au chapitre 6, versets 11 et 20. Mais celui qui prend part au sacrifice en étant impur, chapitre 5, versets 2 et 3, il nous est parlé de ces impuretés. Et on verra ça, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à ce qui est pur, ce qui est impur. On verra ça dans les chapitres 11 à 15. Mais ça pouvait être, par exemple, de toucher le cadavre d'un animal. On était du coup impur. Mais celui qui était impur et qui participait à un sacrifice, il devait être retranché du peuple, c'est-à-dire mis à mort. On voit ça au chapitre 7, versets 20, 21, 25, 27. La sainteté est mentionnée 152 fois dans le livre du Lévitique, plus souvent que dans n'importe quel autre livre. Les répétitions dans ce livre, qui peuvent parfois nous sembler rébarbatives, ont certainement cette fonction d'imprimer sur notre cœur le caractère saint de Dieu. Nous voulons d'un Dieu saint et à la fois nous tremblons à cette pensée parce que nous ne le sommes pas. C'est une bonne nouvelle que Dieu soit saint. Je pense que c'est important pour chacun d'entre nous que Dieu échappe à toute corruption, que Dieu ne peut pas avoir un mauvais jugement. Il est saint dans son jugement. Il est parfait dans son jugement. Il est incorruptible. Imaginez que si le ciel, que Dieu laisse pénétrer dans le ciel quelque impureté que ce soit, quelque péché, oh un petit, ça corromprait le ciel. Ça corromprait la présence de Dieu. C'est pas possible. Dieu est saint, il est à part. On peut pas entrer dans sa présence avec du péché. Il faut une purification totale, parfaite. Si le ciel, si la présence de Dieu était contaminée, ça ne serait plus le ciel, ce ne serait plus le paradis, et on aspirerait encore à un paradis. Ce qui fait qu'on aime l'idée du paradis, c'est justement qu'il n'y a plus aucun péché, plus aucune souillure, rien d'impur, et qui rend le ciel aimable au plus haut point, et le Dieu aimable au plus haut point. Mais en même temps, les sacrifices nous parlent de ce que Dieu est un Dieu miséricordieux. S'il est saint et séparé, eh bien, il veut aussi avoir communion avec nous. Et il permet, au travers de ses sacrifices, que l'on puisse être restauré dans sa présence. Il nous rend son accès ouvert. Il ouvre son accès à chacun d'entre nous. Il y a un très beau refrain dans les chapitres 4 et 5 qui parle des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et c'est cette parole et il lui sera pardonné. Ça revient au chapitre 4, versets 20, 26, 31, 35, chapitre 5, versets 10, 13, 16, 18, 26. Et il lui sera pardonné. Et il lui sera pardonné. C'est tellement beau. On est souillé, on est impur, mais on peut être pardonné. Et on est pardonné pour toujours par l'offrande de Jésus-Christ crucifié. Lui seul a payé. Lui seul est le parfait. Lui seul pouvait effacer toutes nos transgressions. Je vous invite à ce dernier point, les sacrifices du Lévitique rappellent le grand projet de Dieu pour nous. C'est très important de bien noter dans notre compréhension du plan de Dieu global, la place du Lévitique dans cette grande histoire de la rédemption. Dans l'histoire d'Israël, la loi ne vient pas avant la rédemption. Elle vient après. La rédemption a lieu en Exode, chapitre 12, 13, 14, chapitre 15, ils chantent leur joie d'être délivrés, rachetés, libres. Et puis ensuite, viennent les chapitres 16, 17, qui nous parlent de la provision de Dieu pour son peuple. Chapitre 18, il parle de la sagesse de Dieu pour son peuple, qui lui est communiquée à son peuple. Et puis chapitre 19, ils arrivent là devant le mont Sinaï. Et là, le mont Sinaï est en feu. Et puis la loi est donnée à Moïse, les 10 commandements. Et puis ensuite, tout ce que l'on lit encore dans le Lévitique. Ça vient après notre rachat. C'est très important cette pensée-là, parce que ça fait de la loi non pas le moyen pour que l'on puisse être sauvé, mais la loi est comme un cadeau de Dieu pour que l'on puisse vivre dans sa présence, reconnaître son caractère, pour qu'on puisse lui ressembler et être une bénédiction pour le monde. L'obéissance découle de la grâce qui nous a été faite. Elle n'achète jamais la grâce. Si nous ne comprenons pas bien cela, nous allons devenir moralistes ou légalistes. Parce qu'on fera, on soumettra notre acceptation à notre respect de la loi. Mais nous sommes acceptés, nous sommes reçus par Dieu à cause du sacrifice de Jésus-Christ et non pas à cause de nos efforts ou à cause de notre obéissance qui est tellement imparfaite. Nous plaisons à Dieu par la foi dans le sacrifice de l'agneau de Dieu par lequel il ôte le péché du monde. D'un autre côté, le projet de Dieu ne s'est pas arrêté à la traversée de la mer Rouge. Dieu veut avoir communion avec son peuple racheté. Il veut le rendre semblable à lui et il veut le conduire. Dans le cantique de Moïse, ça disait il veut le conduire vers la demeure de sa sainteté. Beau. Tu amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, comme le disait ce cantique de Moïse. L'objectif du livre est de guider les Israélites dans une réponse à la grande délivrance dont ils ont été les objets. Parce qu'ils ont été rachetés, ils devraient vivre une vie obéissante à leur roi, de sorte qu'ils reflètent son caractère dans le monde et sa bénédiction sur la terre. Jésus ne nous a pas simplement sauvés de l'enfer, de la condamnation éternelle. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il nous appelle à lui ressembler. Il nous appelle à répondre à sa grâce rédemptrice dans tous les aspects de notre vie, dans nos couples, dans nos vies professionnelles, dans notre comportement, dans tous les domaines de notre vie. On verra que les lois, elles touchent tous les domaines de la vie du peuple racheté. Il nous appelle à être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, à part. En Lévitique 11, et je pense que ça pourrait être le résumé ou le verset clé du livre, au verset 45, il est dit « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. Car je suis saint. Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, qui vous ai délivré, pour être votre Dieu. » Je veux avoir communion avec vous. Et pour que vous soyez saints, parce que je suis saint. Ce projet, il s'accomplit par l'œuvre de rédemption opérée par Jésus-Christ à la croix et dans une marche avec Dieu qui est toujours basée sur l'œuvre de Christ qui est toujours efficace pour nous garder en communion avec lui. Vous vous souvenez de ce passage en 1 Jean chapitre 1, 1 Jean 1, verset 6. Il dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Les Juifs étaient tout le temps obligés d'égorger un nouvel animal, pour se maintenir dans la communion avec Dieu. Ici, Jean, il dit, le sang de Jésus-Christ crucifié est toujours efficace aujourd'hui pour nous maintenir dans sa présence. Vous voyez la chose? C'est merveilleux. On peut vivre dans la communion avec Dieu. Tous les sacrifices du Lévitique pointent vers la croix de Jésus-Christ. Ainsi, l'objectif des sacrifices du Lévitique, de nous maintenir dans une relation avec Dieu par la foi, eh bien, se réalise véritablement dans le sacrifice de Jésus-Christ qui nous délivre de l'enfer et nous permet de vivre en communion avec lui. Une vie qui devrait refléter le caractère de Christ. L'amour de Dieu pour nous, en Jésus, est tel que la seule réponse appropriée est une obéissance reconnaissante et aimante à son égard, comme celle de Jésus-Christ. Son grand plan, c'est de nous faire monter sur sa montagne sainte. Son grand plan, son grand projet pour chacune de nos vies, c'est qu'on ressemble à Jésus-Christ. Et vraiment, c'est ce qui devrait nous. Ce livre du Lévitique devrait nous rappeler cela, ce grand projet, et de nous réjouir de ce que Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Tous ces sacrifices rythmaient leur vie quotidienne. Ça prenait du temps, ça coûtait quelque chose. Ils devaient s'impliquer personnellement. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un faire un sacrifice à leur place. Quel que soit le sacrifice, que ce soit de reconnaissance ou d'expiation. On comprend à quel point l'objectif était au fond que chaque individu et le peuple dans tout son ensemble vivent dans la communion permanente de Dieu. Et c'est aussi ce que le livre devrait nous enseigner. Le désir de vivre avec Dieu. C'est pas simplement un sacrifice qui nous sauve, le sacrifice de Christ. Parfois, on a cette pensée, voilà, c'est la croix qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est Jésus-Christ crucifié. Ressuscité d'entre les morts, vivant aujourd'hui et avec lequel on peut avoir communion. C'est la personne de Christ, pas simplement l'acte de la croix, mais sa personne qui nous sauve. D'où l'importance de nourrir notre communion avec lui. Et on nourrit cette communion dans l'obéissance, celle du baptême ou celle de ce sacrifice que l'on commémore avec, qu'on va refaire encore la semaine prochaine, de la Sainte Cène. On se souvient de tout ce que Jésus-Christ, et on veut avoir tout ça pour avoir communion avec lui. Comment est-ce que nous manifestons notre reconnaissance, notre communion avec Dieu ? Pour sa grâce envers nous, pour le don de son Fils, pour ses bienfaits. Hébreux commande ceci, et je voudrais terminer avec ces versets dans Hébreux 13. Quand on lit Lévitique, on ne peut pas oublier Hébreux. On est toujours obligé de passer de l'un vers l'autre. Il dit en Hébreux 13, versets 15 et 16, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice, par Jésus, hein, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la générosité, la compassion, la miséricorde que Dieu a déployée envers nous. Elle devrait être visible dans notre relation avec les autres, avec les plus malheureux. Et puis la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vous voyez, là on voit la communion avec Dieu a changé, a transformé le cœur des Hébreux. Les actes de louange, les actes de compassion, de libéralité montrent que leur cœur a été changé. Et il a été changé par la communion avec Dieu. Et ce sont des actes d'amour, ce sont des actes qui manifestent l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu pour nous.